nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette émission, je vous propose de braquer notre projecteur sur la forêt avec un spécialiste des questions économiques, Philippe Jurgensen, professeur d'économie à l'École des sciences politiques de Paris, auteur d'un livre intitulé « L'économie verte » paru aux éditions Odile Jacob en février 2009. Philippe Jurgensen, bonjour.
Bonjour Hélène.
Comment un économiste analyse-t-il la question de la forêt sur la planète ? L'état actuel d'abord, les menaces, les risques, mais je suppose aussi les efforts pour améliorer les dangers. Il y a des programmes, il y a des solutions qui existent. Est-ce tout cela que vous avez examiné dans votre livre ?
Absolument, aussi bien les problèmes que les solutions, parce que se lamenter sur les problèmes sans rien faire pour les résoudre serait effectivement un peu stérile. Il y a un danger très sérieux sur nos forêts. Les forêts sont une part très importante de notre planète, puisqu'elles représentent à peu près un tiers de la superficie des terres, 4 milliards d'hectares.
C'est énorme, oui.
C'est un chiffre quand même tout à fait considérable, 40 millions de kilomètres carrés. Et le drame est que ces forêts continuent à être détruites, et notamment celles qui sont de loin les plus importantes pour notre avenir, c'est-à-dire ce qu'on appelle les forêts primaires ou forêts vierges, pour parler simplement, se détruisent beaucoup plus rapidement que la moyenne. Alors, on peut donner un chiffre, l'abattage net, c'est-à-dire... Ce qu'on détruit, déduction faite de ce qu'on replante, c'est quand même 7 millions d'hectares par an. La forêt régresse de 7 millions d'hectares par an, c'est-à-dire la superficie du Portugal. Chaque année, il y a un Portugal entièrement recouvert de forêt qui disparaît de la surface de la planète. C'est dramatique. Et si vous comparez ce chiffre de 7 millions d'hectares aux 4 milliards qui existent, vous voyez qu'on est en train de grignoter quand même à un rythme assez rapide.
Et on replante
l'ensemble
pas,
de nos forêts.
On
et
ne
alors,
replante pas au même rythme ou à un rythme correct.
On ne replante pas assez puisque ce que je vous dis est un chiffre net. En gros, en brut, on détruit 13 milliards d'hectares, on en replante 6 et il y a donc 7 millions d'hectares de diminution nette, ce qui est considérable. Mais surtout, le plus grave, c'est que sur ces 7 millions, 6 millions sont des hectares de forêts primaires, de forêts tropicales, qui sont des réservoirs de biodiversité, des réservoirs de richesses absolument considérables et qui ne sont pas remplacés par ce qu'on replante, parce que ce qu'on replante, c'est des espèces beaucoup moins nombreuses, beaucoup moins rares,
plus rapides de croissance,
plus rentables. Certaines d'ailleurs ont des effets plutôt néfastes sur la nature, comme l'eucalyptus, souvent planté en Afrique et dont on sait très bien qu'il acidifie les sols. Ça n'a rien à voir avec la richesse d'une forêt primaire. On a mesuré, par exemple, que dans un seul hectare de forêt brésilienne, il y a 235 espèces d'arbres différentes, c'est-à-dire plus qu'il n'y a d'espèces d'arbres au total en Europe. C'est vous dire la différence de richesse entre la forêt primaire et puis notre forêt à nous, qui est quand même une forêt transformée et exploitée depuis longtemps.
Alors, quelles sont les causes de cette déforestation ? Est-ce qu'elles sont uniquement humaines ou est-ce qu'il y a d'autres causes ?
Il y a des causes assez nombreuses, malheureusement, qui se cumulent. Et c'est très dommage parce que, évidemment, les forêts, elles sont le poumon de la planète. On sait bien qu'elles fournissent l'oxygène indispensable pour tous. En plus, ce sont des puits de carbone et ce sont des réservoirs de biodiversité. Donc, c'est vraiment très grave. Pourquoi est-ce qu'elles se détruisent ? Eh bien, d'abord, du fait du réchauffement climatique qui nuit à un certain type de forêts. Mais bien plus fortement, hélas, à cause de l'appât du gain. Vous avez des forestiers qui vont détruire des forêts tropicales simplement pour en extraire quelques espèces d'arbres rares comme l'acajou, en négligeant et en dévastant tout le reste. Et évidemment, c'est très très fâcheux par rapport à ce que pourrait donner une exploitation rationnelle de ces forêts. Mais au-delà de la recherche d'espèces précieuses, il y a plus simplement le défrichage, l'abattage d'arbres pour gagner des surfaces sur lesquelles on va faire des pâturages où on va faire des cultures. Pour aller plus vite, hélas, ce que font les candidats, pasteurs ou agriculteurs, c'est brûler les forêts. Et ça, c'est vraiment désastreux parce que ça fait du réchauffement climatique, ça fait de la pollution, ça libère les tonnes de carbone accumulées dans les arbres et dans le sol sur des siècles. Et c'est vraiment désastreux pour la planète. Mais l'appétit du gain est là. Dans l'immédiat, c'est beaucoup plus commode de brûler la forêt que de payer des bûcherons pour abattre les arbres. Et on fait des cultures sur brûlis qui peuvent être très rentables. Il faut évidemment arriver à arrêter ce type de situation. Mais il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres causes. Par exemple, en Afrique, on a constaté que très souvent, dans des zones qui sont déjà largement déboisées, les quelques arbres qui restent sont abattus pour faire du charbon de bois, pour faire la cuisine. Ça paraît idiot,
oui, mais
c'est vraiment une cause de déforestation. Et c'est parce qu'il n'y a pas autre chose. Alors, dans certains programmes de développement, on s'est aperçu de ça et on a trouvé que la solution toute bête, c'est d'arriver à fournir des petites bouteilles de gaz à des prix raisonnables. Donc, il ne faut pas que ce soit les énormes bouteilles qu'on a chez nous, il faut que ce soit des petites bouteilles, pratiques à manier, pas trop chères et qui servent à faire la cuisine. À partir du moment où les gens peuvent se procurer ça, ils ne vont pas faire 30 km pour aller abattre un des derniers arbres qui restent dans la région voisine. Mais voilà, il faut une action et malheureusement, les causes de déforestation sont trop nombreuses pour que ça ne continue pas si on n'a pas un programme tout à fait ambitieux.
Alors, y a-t-il justement des programmes, des efforts qui peuvent être faits pour reconstituer à la fois les forêts et le couvert forestier? Parce que c'est aussi, il n'y a pas que la forêt avec des arbres, il y a aussi d'autres sortes de forêts.
Bien sûr. Un des procédés intéressants, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire les cultures sous les arbres. Au lieu d'abattre les arbres pour faire des cultures, associer l'exploitation des arbres et les cultures à leurs pieds. C'est un procédé écologique tout à fait intéressant qui se développe de plus en plus chez nous comme dans les pays en développement. Mais fondamentalement, ce qu'il faut, c'est des programmes qui comportent des incitations économiques. Là aussi, comme pour les autres problèmes écologiques, il faut vraiment mettre l'économie au service de l'écologie au lieu qu'elle joue contre. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? D'abord, on peut lutter contre l'abattage du bois, l'abattage sauvage du bois, avec un système organisé dans lequel on donne des permis d'abattage à condition que l'exploitation soit faite en respectant la durabilité de la forêt. C'est-à-dire qu'on abat une partie raisonnable en reconstituant le couvert forestier au fur et à mesure. Donc des filières bois qui s'organisent autour de ça en respectant la nature. Ça suppose au début un petit peu de subvention, mais ça suppose aussi une réglementation, des codes forestiers qui soient respectés et dans lesquels on encourage le reboisement plutôt que d'encourager le défrichage. Un pays comme le Brésil, par exemple, fait beaucoup de tentatives dans ce sens avec un succès encore mitigé, mais c'est clair que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Il y a un autre aspect qui est important, c'est qu'il faut intéresser les populations à la protection des forêts. Le président brésilien, justement Lula, l'a dit très bien un jour, personne ne convaincra un pauvre de ne pas couper un arbre s'il n'a pas en échange le droit au travail et à la nourriture. Or, souvent, dans le passé, on a conçu des programmes de protection des forêts ou de reboisement sans s'occuper des populations qui vivaient à proximité. Il faut évidemment, en même temps, s'en occuper, leur réserver une partie significative des recettes qui viennent de l'exploitation rationnelle et protectrice de l'environnement de la forêt, avoir des programmes sociaux, créer des emplois, et on peut très bien le faire. Par exemple, les emplois d'exploitants forestiers, la réparation des instruments, la distribution des produits, la fabrication de meubles, tout ça, ça peut faire partie d'une exploitation raisonnée dans laquelle on va fournir aux habitants à la fois des emplois, des ressources de remplacement pour éviter qu'ils fassent du braconnage dans la forêt en démolissant les arbres.
Et tout cela, au fond, a aussi pour objectif non seulement de conserver les forêts, mais de conserver la biodiversité qui est tout à fait fondamentale. Toutes les plantes et les animaux, bien sûr, mais il faut conserver cette biodiversité ou est-ce qu'on pourrait au contraire la laisser se réduire tranquillement? Il y a des espèces qui ont disparu, ce ne seront pas les premières ni les dernières sans doute.
Non, bien sûr. La biodiversité, c'est comme les forêts, d'ailleurs, ce qu'on peut appeler un bien public mondial, c'est-à-dire une richesse de notre terre qui n'appartient à personne, qui n'est pas chiffrée, d'ailleurs, qui est très difficile à chiffrer, mais dont on voit bien qu'elle est extrêmement importante. La biodiversité, c'est la variété des espèces animales et végétales. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un appauvrissement terrible pour notre planète que de voir ces espèces qui disparaissent par centaines, par milliers. Certains savants disent qu'on est aujourd'hui devant la sixième extinction majeure de la vie sur la Terre, et celle-là, elle est du fait de l'homme. Les plus extrémistes disent d'ailleurs que l'homme est le principal prédateur de la Terre. Mais c'est vrai qu'on voit des espèces disparaître tous les jours. Et c'est vraiment très grave parce que la plupart de ces espèces ne sont même pas encore recensées. Pourquoi c'est grave ? Eh bien, tout simplement parce que c'est important pour que la Terre respire, qu'il y ait des espèces diverses, mais c'est aussi important parce que c'est notre assurance vie pour l'avenir. Les espèces animales, les espèces végétales sont des combinaisons extraordinaires qu'a fait la nature, des possibilités génétiques. Et on trouve constamment parmi elles de nouvelles sources de médicaments, de quoi lutter contre une épidémie imprévue jusque-là. Est-ce qu'on sait par exemple que les traitements les plus efficaces contre le cancer viennent d'une plante ? Il fallait la découvrir, il fallait savoir l'utiliser et il faut maintenant l'aménager, essayer de trouver des ressources de remplacement. Et c'est constamment qu'on trouve des solutions qui nous viennent de la nature. Si on laisse les espèces sauvages disparaître, on perd un petit peu notre assurance vie pour le futur. À tel point d'ailleurs qu'il y a maintenant de très nombreux programmes qui sont des banques génétiques dans lesquelles on essaye de mettre de côté le code génétique d'organismes. On ne sait pas encore très bien à quoi ça peut servir, mais on se dit que ça servira sûrement un jour et que c'est vraiment dramatique. Voilà, sont des pépinières. Et il y a même un projet assez incroyable qui a été fait au Spitzberg dans lequel des centaines de milliers de graines de plantes sont conservées en se disant que, comme ça au moins, elles survivront à l'anéantissement de la biodiversité congelée parce qu'il fait très froid au Spitzberg. Et donc, on essaye de compenser en fait la destruction de la biodiversité.
Mais ce sont encore des mesures un peu isolées, emblématiques, mais en même temps, il n'y a pas une prise de décision.
Ah, absolument. Il n'y a pas vraiment de prise de décision et c'est grand dommage parce que c'est quand même des mesures de replâtrage. Ce qu'il faudrait surtout, c'est arrêter la destruction de la biodiversité. On a mesuré que le rythme d'extinction des espèces actuellement est entre 100 et 260 fois plus rapide que le rythme moyen évalué depuis l'apparition de la vie sur Terre. Les espèces évoluent, bien sûr. Il y a constamment de nouvelles espèces qui naissent et d'autres qui meurent. Mais l'homme prédateur a multiplié ce rythme par au moins 100 fois. C'est dire à quel point le problème est grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut d'abord, je crois, arriver à mettre au point une mesure du phénomène et des normes de protection de la biodiversité. Pour ça, on a besoin d'une organisation mondiale de la biodiversité. Le projet existe d'ailleurs. Il a été élaboré par un certain nombre de savants qui ont fait ces propositions. Pour l'instant, on n'a pas réussi à la constituer. Une conférence s'était réunie en France pour essayer d'y aboutir. Il y a bien sûr déjà une convention sur la diversité biologique qui essaye de faire prendre des engagements aux pays pour lutter contre la chasse prédatrice, les méthodes de pêche destructrices, etc., qui essaye d'étendre les réserves, les pactes naturels. Mais je pense qu'il faudrait vraiment, pour coiffer tout ça, arriver à constituer une organisation mondiale de la biodiversité. Alors, qu'est-ce qu'elle fera ? Elle mesurera. Elle encouragera les gouvernements à mettre en place des incitations pour protéger la biodiversité. On commence à le faire en France. Le Grenelle de l'environnement a prévu, par exemple, qu'à chaque fois qu'on construirait une nouvelle route, une nouvelle usine, on prévoirait dans le budget de quoi compenser la perte de biodiversité qui en résulterait. Dans les procédés techniques qu'on peut mettre en avant pour protéger la biodiversité, il y a bien sûr déjà la protection des forêts, mais il y a aussi l'idée de constituer des réserves naturelles. C'est le programme Natura 2000 en Europe, par exemple. On a multiplié ces parcs et ces réserves naturelles. Et dans les pays en développement, on a aussi constitué de très nombreux parcs naturels. Mais l'idée nouvelle maintenant, c'est qu'il est important de relier ces réserves pour que la biodiversité puisse s'exprimer complètement, c'est-à-dire que les animaux puissent circuler d'une réserve à l'autre. C'est ce qu'on appelle les trames vertes ou les trames bleues. Et dans le programme écologique français actuel, il y a un aspect qui consiste à instaurer ces trames vertes, c'est-à-dire qu'on puisse circuler d'une zone à l'autre. Sinon, on est quand même un peu devant des eaux un peu élargies, qui ne sont quand même pas une manière très, très efficace de vraiment préserver la biodiversité. Voilà, il faut bien entendu protéger ces parcs naturels en luttant contre le braconnage, mais c'est exactement le même problème que pour la forêt. Si on veut éviter le braconnage et la destruction des animaux et des plantes, il faut trouver des ressources de remplacement. Est-ce qu'on sait, par exemple, qu'aujourd'hui, en Afrique centrale, la majorité de la viande consommée par les habitants est de la viande de brousse? Ce n'est pas de la viande d'animaux d'élevage, c'est de la viande prélevée sur des animaux sauvages dans les forêts. D'abord, c'est dangereux d'un point de vue sanitaire. On sait que l'origine du sida, c'est ça. C'est la consommation de viande de brousse et que le sida s'est transmis comme ça du singe à l'homme. Mais beaucoup plus largement, au-delà du risque sanitaire, ces prélèvements sur la viande de brousse font qu'il y a des espèces qui sont menacées. Vous savez que, par exemple, les gorilles de montagne, les chimpanzés bonobos, etc., et de très nombreuses espèces sont menacées essentiellement par le braconnage. L'éléphant a disparu d'Afrique occidentale à cause du braconnage. Alors, heureusement, il s'est bien reconstitué dans les régions d'Afrique australe, mais il est clair qu'on a besoin de réserves naturelles et qu'on a besoin aussi, autour de ces réserves naturelles, d'avoir des populations qui soient intéressées à les préserver et qui soient rémunérées pour ça, qui aient des emplois et qui aient des possibilités de vivre, plutôt que de les voir devenir les ennemis de ces parcs naturels parce qu'ils comprendront qu'on leur préfère les animaux, ce qui est effectivement pas défendable à l'instant. Bien sûr qu'il faut protéger les animaux, mais il faut quand même donner d'abord de quoi vivre aux hommes. Donc le problème du développement et de la protection sociale est indissociable de celui de la protection de la biodiversité.
Et c'est là, en effet, qu'on voit que tous les problèmes sont liés, comme vous le montrez fortement dans votre livre « L'économie verte », Philippe Jorgensen. Et ce livre est paru aux éditions Odile Jacob. Merci.
Merci beaucoup.